BFM Business. 9h, 9h30. Good Morning Market, Étienne Brac.
C'est parti pour Good Morning Market, l'Europe qui devrait rebondir dans une poignée de secondes à 9h. Les futurs sont dans le vert, il faut dire que le pétrole se calme un petit peu. Après avoir touché les $108 hier, le baril de Brent cède de 2%. Le gaz de son côté redescend sous les 80 euros le mégawatt-heure. En attendant, l'inflation américaine tout à l'heure à 14h30. Dans un instant, nous serons avec François Monnier de la rédaction d'Investir et Fabien Bossy, chef économiste France chez Société Générale CIB, pour revenir sur l'INSEE qui revoit très clairement à la baisse ses prévisions de croissance pour cette année de 0,7 à 0,4 et puis surtout revenir sur les annonces de Christine Lagarde hier après-midi qui a donc, comme attendu, relevé ses taux. Dans la dernière partie de l'émission, Philippe Botou, le PDG de Date, viendra nous dire pourquoi il va rentrer en bourse dans une dizaine de jours. Son groupe est spécialisé dans les échangeurs thermiques. Il cherche à lever 10 millions d'euros. Pourquoi choisir la bourse plutôt que le private equity? Élément de réponse à partir de 9h20. Voilà le programme de Good Morning Market, 9h, 9h30 et puis ensuite vous retrouvez Laure Clausy.
Oui, alors ce matin, vous n'avez pas besoin d'une douche froide, hein, il suffit de lire la note de conjoncture de l'INSEE pour se rafraîchir, ça fait à peu près le même effet. On va évidemment parler de cette perspective de croissance, hein, 0,4% en 2026. Qu'est-ce que ça nous dit pour la fin de l'année? Franchement, elle fait mal, cette note de conjoncture. On en parlera avec Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation IFRAP, avec Denis Père, président de Nature et People First, et avec Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Rendez-vous dans 25 minutes.
Voilà le programme des experts, 9h30, 10h30. En attendant, il est 9h et c'est toute l'information du jour avec Léo Dumas.
BFM Business, l'info éco. Léo Dumas.
Et à la une, la France qui décroche, nous dit l'INSEE dans sa note de conjoncture. C'est même la seule grande économie avancée à ralentir. Un petit 0,4% de croissance est désormais attendu cette année. C'est le pire résultat depuis 2012, en dehors de la période du Covid. Et le gouvernement lui-même va donc revoir ses prévisions ce matin. Conférence de presse de Roland Lescure dans une heure. Et avant ça, écoutez ce qu'en dit la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjean, sur TF1.
Ce qui est certain, c'est qu'on traverse des crises successives depuis maintenant près de 9 mois. Notre objectif, c'est de tenir la dépense. Il y a des causes extérieures. Les causes extérieures, on ne les maîtrise pas complètement. En revanche, la dépense française doit être tenue et elle sera tenue. C'est pour ça que je donne juste cet exemple, que les aides sur les agriculteurs qui ont été annoncés il y a quelques jours, 1,3 milliard, seront compensées par des efforts dans d'autres ministères. Donc,
voilà, Maud Bréjean, la porte-parole du gouvernement ce matin sur TF1. À l'inverse de la France, une bonne surprise au Royaume-Uni qui annonce 0,4% de hausse de son PIB au mois de juillet. Une croissance qui a été portée par les services, en particulier la programmation informatique et tout ce qui est lié aux entreprises actives dans l'intelligence artificielle. Le baril de Brent est maintenant aussi bien ancré au-delà des $100, 106 à l'instant, dans ce contexte d'extension du conflit au Moyen-Orient vers le Yémen, où les rebelles houthis pro-iraniens ont réussi à prendre hier soir la ville de Moha et son port stratégique qui donne sur la mer Rouge, tout proche du détroit de Bab-el-Mandeb. Et puis, les tensions dans la zone alimentent également la hausse des cours du gaz, avec un mégawattheure en Europe qui s'échange ce matin à 80 euros tout pile, en France d'ailleurs, pour les particuliers. Le prix de référence du gaz va une nouvelle fois augmenter, plus 6,3% sur les factures au 1er octobre.
Merci beaucoup Léo Dumas. Il est 9h02, le CAC 40 rebondit ce matin, avec donc une petite détente sur les cours des matières premières. Tout cela profite donc à l'indice parisien, mais aussi aux autres indices en Europe. À souligner donc le CAC 40 qui gagne 0,2% ce matin à l'ouverture. Parmi les valeurs à suivre ce matin, Airbus qui annonce lancer un programme de rachat d'actions à partir de ce jour jusqu'au 6 novembre. Un nombre maximum de 4 100 000 actions seront rachetées. Ça concerne notamment un plan d'actionnariat salarié et de rémunération en actions du personnel. Et puis du changement à venir dans le SBF 120, puisque vous avez Genfint et Inventiva qui vont intégrer l'indice large de Paris. À l'inverse, Interparfum et Veralia vont sortir du SBF 120. Tout cela aura néanmoins un impact sur la gestion passive, raison pour laquelle le titre Genfint prend un peu plus de 5% ce matin à l'ouverture. Dassault Systèmes, Capgemini et Euronext sont les plus fortes baisses dans l'indice parisien. À l'inverse, Safran, Airbus et Renault gagnent plus de 1%. En ce qui concerne le marché obligataire, toujours de vives tensions sur le 10 ans français, qui est à 4,44, c'est-à-dire un plus haut de 2008. L'écart entre la France et l'Allemagne dépasse les 90 points. C'est une première depuis 2012. Nous parlerons de ce contexte de taux avec François Monnier dans un instant, directeur de la rédaction d'Investir, et Fabien Bossy, chef économiste France de Société Générale CIB. À tout de suite.
BFM Business. 9h, 9h30. Good Morning Market. Étienne Brack.
C'est parti pour Good Morning Market avec en plateau François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir. Bonjour François.
Bonjour Étienne.
Merci de nous accompagner ce matin en compagnie de Fabien Bossy, chef économiste France chez Société Générale CIB. Bonjour Fabien Bossy. Merci également d'être là ce matin. Ça tombe bien, vous êtes chef économiste France. Vous allez un petit peu pouvoir quand même nous éclairer sur la situation française. Et puis dans un instant, on parlera bien sûr de la BCE, l'INSEE qui ne voit plus que 0,4% de croissance cette année. Lors de sa dernière estimation, c'était 0,7%. Est-ce qu'on prend un petit peu la route de la récession ou non, il faut s'attendre à un rebond en 2027?
Alors la route de la récession, on ne la prend pas, à vrai dire, les choses vont aller en s'améliorant. Il faut rappeler qu'on avait commencé l'année avec un premier trimestre en croissance négative, une croissance 0 au T2, et maintenant l'INSEE voit une croissance à 0,1 au T3 et à 0,2 au T4. Bon, il faut faire un petit peu la part des choses, hein. Il y a beaucoup de volatilité dans ces chiffres trimestriels. Et le chiffre négatif du T1 exagérait un petit peu la situation. Et au final, ce qu'on a, c'est quand même une situation économique qui reste sur ces tendances de ces dernières années, avec une demande domestique privée, notamment à tonnes. Mais c'est le cas depuis 4-5 ans maintenant. La croissance avait été un peu flattée par des chiffres, notamment de demande publique. La demande publique se retourne cette année avec le cycle des investissements locaux. C'est pas une surprise, ça arrive à chaque fois après les élections municipales. À cela, il faut ajouter les problèmes de la canicule du secteur agricole. Donc la situation est effectivement pas reluisante, mais il n'y a pas vraiment de changement de tendance massif comparé aux années précédentes.
Alors quand on regarde la réaction sur la partie action, elle est négligeable, François Meunier, dans le sens où les entreprises du CAC 40 sont internationales, elles sont présentes à l'export. Comment aujourd'hui vous regardez la situation française, sachant qu'on parlera de la BCE dans un instant? La BCE vous dit qu'on regarde au niveau européen, on n'est pas si inquiet que ça. L'économie est résiliente.
Oui, mais c'est là où peut-être ça pique. On a vu cette semaine quand même la BCE qui a revu à la hausse, elle, sa prévision de croissance pour l'ensemble des pays de la zone euro, alors que l'INSEE revoit à la baisse sa prévision de croissance pour notre pays. Donc on montre quand même qu'il y a un décrochage. En tout cas, on n'arrive pas à suivre tout à fait les mouvements de nos amis et de nos voisins. On va avoir probablement dans les heures qui viennent une révision, une dégradation de notre objectif de déficit. On visait 5, ce sera plus que 5. Est-ce que ce sera 5,2%, 5,4%, alors que nos voisins semblent quand même plus sérieux? Donc nos voisins, notamment italiens, vont être aux alentours des 3%. Donc on est là aussi sur une trajectoire budgétaire qui est compliquée. Donc on a en relatif une situation qui peut conduire les investisseurs à sous-pondérer les actions françaises par rapport aux poches qu'ils pourraient avoir sur les autres zones géographiques. Et on l'a vu hein, cet été, Bank of America a montré dans son enquête que les gérants européens étaient globalement sous-pondérés en actions françaises. Donc vous avez un problème de croissance, vous avez un problème de déficit et vous n'avez pas de solution, en tout cas pas de réforme prévue, en tout cas pas avant l'élection présidentielle. Donc ce triptyque fait que aujourd'hui les actions françaises en relatif sont quand même délaissés et on le voit sur le comportement du marché depuis le début de l'année. C'est pas en France qu'on trouve les parcours les plus sympathiques, puisque le CAC 40 est en retard par rapport aux indices européens, par rapport aux indices américains. Mais il y a toujours des opportunités, donc c'est ça qu'il faut essayer de chercher. Mais globalement, il faut reconnaître qu'on est quand même dans une phase difficile, même si le mouvement de désaffection pour les actifs français, ça date pas d'aujourd'hui. En fait, depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024, c'est là qu'on a vu qu'il y avait un décrochage, une sorte de prime de risque qui a été appliquée aux actions, mais qu'on retrouve aussi sur le marché obligataire, avec un écart de taux du 10 ans français par rapport au 10 ans allemand qui a tendance à se creuser sans devenir dramatique, sans devenir vraiment trop préoccupant, mais on voit que tout doucement, mais sûrement, il y a un écart qui se creuse, d'autant que nos amis allemands, ça y est, leur plan de relance commence à porter leurs fruits. Donc eux, ils sont dans une phase d'accélération, et nous, eh bien, on a du mal à suivre.
Le 10 ans français est ce matin à 4,44. C'est une première depuis 2008, Fabien Bossy. Si on dézoome un petit peu, alors je ne vais pas aller trop loin, hein, jusqu'au taux négatif d'il y a 5-6 ans, juste sur 2-3 mois, on était fin juillet à 3,6%. 4% au milieu du mois d'août, et là on se retrouve à 4,44. Est-ce que aujourd'hui, quand vous voyez le prix de notre dette, ça vous inquiète? On est quand même sur une croissance fulgurante.
Alors, le mouvement, effectivement, hein, si vous prenez la tendance des derniers mois et que vous prolongez le trait, évidemment, on va vraiment dans une situation un peu compliquée si vraiment on prolonge le trait durant encore 6 mois, 1 an. Après, il faut aussi mettre les choses un petit peu en relatif. Le mouvement de hausse des taux, c'est quelque chose qui a commencé depuis 2022. Il faut rappeler qu'en 2022, le mouvement avait été beaucoup plus violent que ce qu'on observe ces derniers mois. On avait pris 300 points de base sur les taux en une année. Pour l'instant, on est sur un mouvement de encore moins de 100 points de base en une année. C'est un mouvement qu'il faut surveiller, qui a des conséquences nettes sur la trajectoire des finances publiques. En tant que choc économique seul, on reste d'un ordre de grandeur en dessous de ce qu'on a connu en 2022. Mais clairement, ça dit quelque chose de la situation française, mais ça dit avant tout quelque chose de la situation mondiale, parce que cette hausse des taux français, ça reflète avant tout une hausse des taux mondiale dans un contexte d'activité qui s'est révélée assez résiliente au conflit au Moyen-Orient et à une inflation qui est élevée et au-dessus de la cible, voire même nettement au-dessus de la cible en zone euro, mais aussi et surtout aux États-Unis.
Hier, la BCE a donc décidé de relever ses taux, comme attendu, pour la simple et bonne raison qu'elle voit plus d'inflation, mais également plus de croissance. C'est peut-être un petit peu la bonne nouvelle. Elle voit 0,9% de croissance cette année dans la zone euro contre 0,8% lors de sa précédente estimation. Et puis une nette accélération l'an prochain à 1,4%. Alors on va mettre de côté le cas français où c'est un petit peu la double peine, hein, vous venez de le souligner, moins de croissance, plus d'inflation. Est-ce qu'aujourd'hui, la BCE doit encore relever ses taux? Quelles sont vos prévisions chez Société Générale?
Alors, c'est vrai qu'il faut être tout à fait objectif. Hein, lorsqu'on revoit à la hausse la croissance et l'inflation, et que l'inflation est revue à la hausse et était déjà au-dessus de la cible, ben, tout ça pointe vers plus de hausse de taux. Donc, on voit le mouvement des hausses de taux se poursuivre. Mais toutefois, on est assez prudent sur l'ampleur des hausses de taux qu'il faudra encore réaliser, parce que on est quand même dans une situation un peu inconfortable. Ces dernières semaines, les mouvements de taux ont été accompagnés par une forte hausse des prix de l'énergie. C'est un choc inflationniste, bien sûr, mais ça va aussi raviver des craintes sur l'activité. Bon, ces craintes sur l'activité, finalement, c'était pas matérialisé après la hausse de juin. On a passé un été quand même relativement rassurant, mais vu la hausse de taux, vu les hausses des prix de l'énergie récentes et des hausses de prix qui maintenant touche aussi le gaz et l'électricité, donc le cœur de l'économie domestique européenne, ça va avoir des conséquences un petit peu négatives pour l'activité. Donc ça, il faut tempérer un petit peu les attentes de hausse de taux. Là, pour rentrer vraiment dans un cycle restrictif, il faudrait avoir des preuves d'effet de second tour avec des accélérations sur les hausses de salaire. Pour l'instant, Christine Lagarde l'a encore souligné hier, on n'a pas vraiment de preuve d'une accélération des hausses de salaire et pas vraiment de raison de rentrer dans un rapide cycle de resserrement monétaire. Mais en attendant, il faut continuer sur cette voie un peu prudente qu'a pris la BCE en montant lentement les taux et en attendant de voir, tant que l'activité tient, tant que l'inflation reste au-dessus de la cible, la direction est évidente.
Le prix du pétrole est ce matin à 105 dollars, c'est le prix pour un baril de Brent. Le cours du gaz, le TTF, c'est la référence en Europe, 80 euros pour 1 mégawattheure. C'est quoi là aujourd'hui le sujet de fin d'année, François Monnier? Est-ce que c'est encore de hausse de taux pour la BCE, pour la Fed, hein? On verra l'inflation américaine cet après-midi à 14h30. On voit quand même qu'il y a beaucoup d'incertitudes, hein, sur ces dernières semaines de 2026 avec des investisseurs qui posent un petit peu le crayon. Il y a de l'attentisme partout, hein, même dans les entreprises.
Oui, en fait, il y a deux grands rendez-vous à pas rater d'ici la fin d'année. D'abord, c'est la semaine prochaine avec l'intervention de la Fed. Donc, on a un nouveau patron de la Réserve fédérale. Là, on va voir s'il prend vraiment la main et la mesure de son travail. On l'a pas encore vraiment vu à l'œuvre, d'autant qu'il était sa stratégie était un petit peu polluée par les déclarations de Donald Trump et par les actions du Trésor américain. Il faut se rappeler quand même que cet été, on a eu un Trésor américain qui a essayé de montrer qu'il pouvait piloter les taux à 10 ans aux États-Unis en essayant de manipuler avec les taux à court terme, les taux à long terme. Il a échoué. Il a essayé de relever, maintenant son intervention, on parle de 6 milliards sur une dette de 40 000 milliards de dollars. Donc on a montré que le Trésor était impuissant et que finalement le pouvoir, normalement, il est à la Fed, il est à la Banque Centrale Américaine. Et là, on va voir si le nouveau patron de la Fed rassure, montre que c'est vraiment le pilote et qu'on peut avoir confiance dans une Fed indépendante. S'il montre avec simplement une petite hausse de taux en septembre, on aura plus d'indications cet après-midi avec des chiffres de l'inflation aux États-Unis. Mais si on montre que vraiment, c'est un vrai guide des marchés, peut-être un pompier, ça va peut-être rassurer tout le monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être la publication des résultats des entreprises. On a eu un été fantastique. Les entreprises ont continué d'investir, ont continué d'innover. La croissance des bénéfices était au rendez-vous. On a eu, depuis le début de l'année, alors qu'il y a la guerre, alors qu'il y a l'inflation, alors qu'il y a des problèmes politiques, on a eu sans cesse des révisions à la hausse de la croissance bénéficiaire. Là, on vise quand même une progression de près de 33% des profits au sein du S&P 500. En Europe, c'est moins, mais c'est plus que ce qui était prévu au début de l'année. On est sur une tendance à l'amélioration de 18% des profits des entreprises. Et donc, on est vraiment sur une très bonne dynamique. Maintenant, il va falloir confirmer que cette dynamique, elle est toujours là. Et ça on va découvrir ça avec la saison des publications des comptes du troisième trimestre qui vont commencer à partir de mi-octobre.
Dernier exemple en date, hier soir, Oracle, qui publie des résultats au-delà des attentes. Le titre était à plus 5. C'était vraiment un test, dans le sens où depuis plus d'un an maintenant, Oracle attire toutes les attentions. Parce qu'il y a des craintes sur la monétisation de l'IA, surtout que c'est une société qui s'est beaucoup endettée.
Oui, puis c'est dans les hyperscalers, c'est l'entreprise la plus fragile. C'est l'entreprise qui a le bilan le plus dégradé. Elle s'est mise à investir un peu tardivement par rapport aux autres grands acteurs américains. Et donc, si jamais ça craquait du côté ce qu'on appelle les hyperscalers, de ceux qui gèrent ces data centers et qui veulent se développer dans le cloud, c'est probablement Oracle qui est le maillon faible. Donc, de voir que Oracle rassure, c'est tout l'écosystème qui en profite.
Oracle qui lève massivement des capitaux, comme l'ensemble des hyperscalers, ça fait une concurrence aux États. Fabien Bossy, ça explique aussi pourquoi on a des taux qui sont sur les niveaux actuels. Le 10 ans américain frôle les 5% ce matin. Nous sommes à 4,94. Le 30 ans américain est sur des plus hauts de 2001 à 5,3%. L'ensemble des taux longs sont sur des plus hauts. On l'a encore vu la semaine dernière avec le Japon, au-delà des 3%. En ce qui concerne l'Europe, la France, est-ce qu'on a encore des marges de manœuvre? Est-ce qu'on ne risque pas un petit peu de se faire étouffer par cette remontée des taux longs qui, à court terme, n'a pas l'air de vouloir s'arrêter?
C'est clair qu'on ne va pas pouvoir maintenir des niveaux de déficit aussi élevés. En France, mais en général dans le monde, les États-Unis ont des déficits, lorsqu'on prend le gouvernement dans son ensemble, le déficit américain, c'est proche des 8-9%, lorsqu'on inclut non seulement le gouvernement fédéral, mais l'ensemble des administrations locales. Il y a un besoin de consolidation fiscale qui est mondial. La France détonne un peu au sein de la zone euro, pas beaucoup plus que d'habitude. D'ailleurs, la France a toujours dépensé plus que les autres. On est à nouveau parmi les derniers de la classe. Pas vraiment, malheureusement, de nouveauté de ce point de vue-là, mais il va falloir faire effectivement de la consolidation fiscale, parce que comme vous l'avez dit, au début après la crise financière, on était un peu dans une phase d'excès d'épargne, maintenant on est dans une phase d'excès d'emprunt, et clairement il y a trop d'obligations qui sont émises en ce moment.
L'écart de taux entre la France et l'Allemagne est au-delà des 90 points. Quelles sont vos projections? Parce que j'imagine que vous mettez un petit peu à jour vos prévisions au vu de la croissance, de l'inflation, des déficits publics, des incertitudes politiques. Est-ce que vous voyez un spread aller à 100, 110, 120 éventuellement? C'est une possibilité ou pour l'instant c'est un risque que vous écartez?
Alors un spread à 100, 110, vu le mouvement des dernières semaines, comme les choses sont allées tellement vite qu'on peut, pas évidemment pas l'écarter. Là, ce serait, on est à quelques séances un petit peu de turbulence et on peut y arriver. Toutefois, il faut aussi un peu remettre les choses dans leur contexte. On n'a pas eu vraiment de nouvelles du côté français qui pourraient expliquer vraiment une dégradation de la situation française. Le déficit français est au-delà des 5%, on le sait. Il risque de rester proche des 5% l'année prochaine. Là aussi, il n'y a pas de nouvelles. Tous les investisseurs étaient bien au courant qu'il ne fallait pas attendre de grands changements de politique fiscale avant les prochaines élections. Et côté croissance, les révisions à la baisse de l'INSEE et probablement du gouvernement, là aussi, ne sont pas une surprise pour les investisseurs. Les chiffres de croissance étaient connus. Donc, il n'y a pas de raison non plus de voir une nette dégradation de la France seule. Après, si des facteurs globaux sont en jeu, là, la France pourra bien entendu pas y échapper.
Le mot de la fin, François Monnier, comment vous accompagnez vos lecteurs en ce moment? On a déjà parlé souvent sur ce plateau. C'est vrai que la France a une part de plus en plus petite dans la part des portefeuilles. Mais tout à l'heure, vous avez parlé des opportunités. Où sont les opportunités pour vous aujourd'hui?
Les opportunités, c'est plutôt de profiter des trous d'air. On va n'y a pas de raison non plus de, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, il n'y a pas non plus de raison de s'alarmer, voire de paniquer ou de s'inquiéter outre mesure. En revanche, on va, et ce serait logique, naturel, d'avoir plus de volatilité sur les marchés. Donc on va avoir des séances peut-être un petit peu difficiles, et c'est probablement dans ces séances difficiles qu'il faudra garder le cap et saisir des opportunités. On en a même vu au niveau mondial, la tech, ça s'est mal passé aux États-Unis au mois de juillet, c'était plutôt des opportunités d'achat. Donc on va essayer de trouver les moments un peu difficiles où il y a un peu de stress pour rentrer sur des beaux actifs, des belles valeurs. Et donc, c'est ça qu'il faut aujourd'hui surveiller.
Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés ce matin en plateau. François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir, et Fabien Bossy, chef économiste France de Société Générale CIB. 9h22, tout de suite, on va faire un point sur une société qui va bientôt rentrer en bourse.
Good Morning Market sur BFM Business.
Oui, une IPO à Paris, c'est rare pour être souligné. Et donc, cette entreprise a cette place ce matin dans Good Morning Market. Il s'agit de DATE, D-A-T-E. Et son PDG est avec nous ce matin en plateau, Philippe Bothu. Bonjour, monsieur Bothu.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Bah, merci à vous d'être présent pour nous expliquer un petit peu votre métier. Alors, votre société est sûrement inconnue du grand public dans le sens où on est sur des activités très B2B, des activités industrielles. Vous êtes un spécialiste de la gestion thermique. Vous développez, vous fabriquez des échangeurs thermiques. Pour faire simple pour nos auditeurs, comment ils peuvent imaginer à quoi ressemble un échangeur thermique et à quoi ça sert?
Alors, un échangeur thermique, c'est un système de transfert de chaleur pour réchauffer, pour refroidir, comme une climatisation, comme une chaudière. L'objet qui est assez connu du grand public, mais nous, on évolue dans des marchés très spécifiques, dans des environnements très spécialisés, température extrême, donc on descend proche du zéro absolu, par exemple pour le quantique ou la cryogénie des accélérateurs de particules. On travaille aussi pour la défense, hein, donc pour la furtivité, pour descendre en température dans un sous-marin nucléaire, par exemple pour les sonars, aussi dans des avions de chasse et puis dans les radars de défense du territoire.
Deep Tech, quand vous parlez de Deep Tech, c'est intelligence artificielle par exemple, vous pouvez développer vos systèmes pour refroidir des data centers, c'est une possibilité?
Alors les data centers, c'est une possibilité, c'est pas nos priorités à court terme. Nous, on a la partie accélérateur de particules, hein, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'accélérateurs de particules dans le monde. Régulièrement, ils remettent à jour leurs installations pour la course au prix Nobel, pour les expérimentations scientifiques. Nous, on travaille là-dedans. On a le quantique. On travaille beaucoup avec trois acteurs américains du quantique, donc Quantinuum, donc Mabel Quantum, où on abaisse les températures pour pouvoir permettre de faire des calculs. Et enfin, le spatial, avec les chambres de test de satellites et les satellites.
Alors, vous cherchez aujourd'hui, et vous êtes en plein roadshow, hein, la première séance aura lieu le 25 septembre, 11 millions d'euros. Oui, avec quoi, aujourd'hui, vous allez pouvoir développer ces 11 millions d'euros? Quelles sont les pistes, les leviers?
Alors, il y a donc les 11 millions d'euros, c'est 10 millions d'euros plus 1 million d'euros, 10 millions de primaires, hein, d'augmentation de capital, 1 million d'euros de cession d'actions. Moi, j'ai acheté l'entreprise avec un LBO, il faut bien rembourser le prêt. Hein. 30% de ces fonds vont être dédiés à notre outil industriel pour accompagner le scale-up, donc notamment la construction d'un nouveau bâtiment. On a déjà sécurisé le permis de construire. 40% l'élargissement de l'offre, donc un peu de R&D sur fonds propres, notamment sur les satellites, les caloducs oscillants et puis les très très basses températures dans le quantique pour toucher des grands acteurs comme Google, Amazon. Et puis enfin, l'expansion à l'international et notamment aux États-Unis dans un premier temps.
Pourquoi avoir choisi la bourse plutôt que le private equity? Vous avez souligné en préambule que vous êtes présent dans le secteur de la défense. Il y a beaucoup de fonds qui se sont développés ces dernières années dans ce segment de la défense. Je pense notamment au fonds de BPI France, mais ce n'est pas le seul. Pour 9 millions d'euros, pourquoi aller en bourse et pas plutôt se tourner sur le non-coté?
Oui, c'est une bonne question. On avait eu des propositions. Ce qui est important pour nous, c'est de garder une indépendance de gouvernance. Les fonds veulent souvent venir au board et ça peut créer parfois un manque de confiance de d'autres acteurs. Donc, on garde notre indépendance. Deuxièmement, on vend à l'international à près de 35%. Du coup, ça sécurise beaucoup les achats, notamment aux États-Unis, en Chine, au Japon. Pourquoi? Parce que ils voient que nos comptes sont publiés, sont audités. Hein, on est très transparent quand on est en bourse. Et puis enfin, pour attirer les talents, une société qui est cotée, c'est quand même beaucoup plus attractif.
Alors, si tout se passe bien, la valorisation attendue est de plus de 40 millions d'euros, 42 millions d'euros précisément, ce qui fait des niveaux de valorisation très soutenus au regard de Résultat de 2025, ça fait 47 fois l'EBITDA, le PER ressort à plus de 65 fois. Alors vous allez me dire, oui, mais on est une société en forte croissance. Est-ce que vous pensez que ça va réussir à suffire les actionnaires, les investisseurs ?
Alors, ce que vous dites, c'est post-monnaie déjà, donc c'est pas pré-monnaie, hein, la valorisation que vous soulignez. Ce qui est important, c'est qu'on ait une entreprise rentable, avec un business model éprouvé. Hein, on fait 23,5% d'EBITDA en 2025. On a une forte croissance soutenue dans les années à venir, avec notamment un contrat de 10 ans qui a été signé avec Thales, ce qui est assez rare pour une PME. On a les volumes à l'année, on a des garanties de part de marché sur les 3 prochaines années. Avec la loi de programmation militaire, on sait extrêmement bien ce qui va être devant nous. Donc, on a une entreprise rentable, en forte croissance, résiliente aussi, puisqu'il n'y a pas que la défense. Hein, je l'ai souligné, la Deep Tech, accélérateur de particules quantiques. On est vraiment dans des marchés avec des forts taux de croissance, avec des marqueurs très forts de rentabilité aussi.
Et donc un chiffre d'affaires pour 2030, au-delà de 35 millions d'euros. C'est votre objectif aujourd'hui. C'est un objectif qui est quand même hyper ambitieux. L'an dernier, c'était 3,8 millions d'euros, votre chiffre d'affaires. Comment vous allez pouvoir monter en cadence? Parce que c'est bien beau d'avoir des commandes, mais le plus important aussi, c'est l'exécution. C'est comment aujourd'hui livrer vos clients en temps et en heure et avec les marges que vous souhaitez faire.
Oui, c'est une bonne question. DAT a été créée en 1979, donc c'est une vieille entreprise qui a été créée par un docteur ingénieur du CEA, qui était un scientifique, qui lui a développé beaucoup d'offres, en fait, les premiers échangeurs thermiques, par exemple, pour les TGV. Mais ce n'était pas un industriel, il n'aimait pas ça. Donc nous, on a énormément de track record avec beaucoup de prototypes prouvés dans les entreprises. Et pour le passage à l'échelle, on a passé des certifications qualité qu'on n'avait pas. Hein. On est en mars 2026, on a eu le marquage ASME pour les États-Unis. Et avant, on ne pouvait pas développer de volume puisque les entreprises disaient qu'on n'avait pas cette structure qui permettait de répondre à leurs attentes. Voilà, donc avec les marqueurs d'intérêt qu'on a eus, les prototypes et la structuration de l'entreprise et les contrats long terme signés, c'est comme ça, on s'appuie là-dessus pour le développement de l'entreprise.
Merci beaucoup. Philippe Bothieu nous a accompagné ce matin, PDG de DAT. Alors pour ceux qui souhaitent savoir ce que veut dire DAT, c'est développement et application des techniques de l'énergie.
Tout à fait.
Merci beaucoup. Et donc bonne introduction en bourse, première séance qui est prévue donc le 25 septembre, 9h28. Le CAC 40 reprend 0,46% ce matin, plus 0,5% pour l'Eurostock 50. Séance à suivre bien sûr tout à l'heure avec Antoine Larry-Gaudry, USA Today. Et puis surtout Antoine qui reviendra sur l'inflation américaine qui sera publiée tout à l'heure à 14h30. Il s'agit bien sûr du chiffre du jour et du chiffre qui manque pour la Fed avant de prendre sa décision. Ça sera mercredi soir. Très bonne journée.
Good Morning Market sur BFM Business.